Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Radio.
Du Trisac. Un animateur pas comme les autres.
Cube Radio.
Le Tassé est avec nous et il est politologue et chroniqueur au Journal de Montréal dans ses temps libres et de temps en temps, il s'intéresse à la politique internationale. Monsieur Tassé, bonjour.
Oh, bonjour, mais si peu à la politique internationale.
Si peu, il en fait une obsession. cette semaine, on célèbre le 75e anniversaire de l'ONU. Moi, j'ai l'ONU qui a souvent été dénoncé et décrit comme un endroit de perdition, de corruption.
C'est vrai. Il y a beaucoup de ce genre de choses. Tu sais, les deux tiers des pays qui siègent à l'ONU sont des pays où la corruption est immense. Alors forcément, quand ces gens-là envoient des fonctionnaires à l'ONU, malheureusement, il y en a bon nombre d'entre eux qui sont corrompus, à tel point que le secrétaire général de l'ONU est incapable de savoir combien il y a d'argent, où l'argent est exactement dépensé, parce que il y a beaucoup, encore une fois, de passe-passe, de corruption, et ça pose problème. Cela étant dit, l'ONU est pas complètement inutile. Il y a quand même un certain nombre de choses qui fonctionnent très bien à l'ONU et dont on parle pas. Les postes et télécommunications, par exemple, ben c'est l'ONU qui gère ça au niveau international. Tout ce qui est, par exemple, aviation civile internationale, c'est l'ONU encore une fois. Il y a une multitude d'organismes internationaux qui sont sous le parapluie de l'ONU, puis qui fonctionnent assez bien. Et malheureusement, tu vois, cette année, c'est le 75e anniversaire de la fondation de l'ONU, et on voulait en profiter à l'Assemblée générale en septembre pour réunir les chefs d'État du monde entier et essayer de redonner l'importance que l'ONU a, expliquer au monde entier l'importance de l'ONU, renoncer certains projets. Ça se fera pas, tout le monde est, évidemment, en temps de pandémie, tout le monde a envoyé un vidéo. Et donc, c'est là où j'arrive. Mmh. Donald Trump a envoyé un petit bout de vidéo. On l'écoute. J'ai l'impression d'être dans Bobino, tu sais, quand il dit télé-sino, on écoute un petit bout de dessin animé. C'est pas tout à fait ça, mais bon, c'est Trump.
As we pursue this bright future, we must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China. In the earliest days of the virus, China locked down travel domestically while allowing flights to leave China and infect the world.
Ben, mais je suis désolé, mais il a raison, là, Donald.
Ben oui. Il a raison. Ça ne va pas aider les relations entre la Chine et les États-Unis, mais il a raison. Moi, je suis. Donald Trump, encore une fois, est très bon pour mettre le doigt sur de vrais problèmes. C'est ces solutions qui sont souvent pires que les problèmes. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais oui, il a raison là-dessus, effectivement. Et tu vois, j'aurais aimé ça avoir la réponse de Xi Jinping, ou enfin, il y a le discours de Xi Jinping qui a été enregistré aussi. On ne l'a pas encore. Xi Jinping passe en quatrième, donc peut-être que je t'en reparlerai demain. Mais il n'y a rien dit, Donald Trump, dans son discours qui était inattendu. L'accusation qu'il fait sur la Chine, ben, on la connaissait. C'est une accusation qui soulève très, très souvent.
Mais ça marche, l'ONU, dans certains secteurs, non?
Oui, ça marche très bien. Ça marche très bien, comme je te disais, dans un certain nombre de secteurs. Mais il y en a d'autres où ça marche plus. Tu sais, par exemple, quand on parle de la Commission des droits de l'homme, ben, tu sais, t'as des dictatures épouvantables, effroyables qui siègent là-dessus. Je me suis dit, ben, de quoi vous mêlez-vous?
Le comité du droit des femmes, présidé par l'Arabie Saoudite.
Ben oui, c'est bien. Écoute.
Super, l'ONU, on veut ça. Bon.
Non, écoute, mais... je pense qu'il faut en rire franchement, puis s'en moquer, puis expliquer qu'il y a des problèmes, mais en même temps, il faut bien voir que l'ONU a quand même un rôle international. C'est au Conseil de sécurité, même si les États, il y a les 5 grands États qui ont des vétos, c'est sûr, mais malgré tout, ils se parlent. Et ça, c'est très, très important. On se parle, puis ça permet, je pense, dans certains cas, de pas dépasser des limites. Ça permet d'entendre le point de vue des autres. Et ça, c'est très important.
Parlant d'organisation, celle mondiale de la santé émet un triste message. Lequel?
Figure-toi qu'il y a 200 vaccins qui sont en ce moment à l'étude.
Non.
Et le docteur Tedros, oui, dit, écoutez, c'est possible qu'il n'y en ait aucun qui fonctionne. Ça, j'aime pas entendre ça. Oh, je t'avoue, c'est un gars qui dit, écoutez, de manière réaliste, là, On espère que ça va fonctionner, mais c'est très possible qu'il n'y en ait aucun qui fonctionne. Et donc, mais lui, il dit, il faudrait quand même que les vaccins soient rendus universels pour tout le monde, etc. Et ça, je dis, bon, ça, c'est l'ONU qui retombe encore dans son grand évangélisme. Tu sais. Mais non, regarde, charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est évident que ce sont les pays qui ont développé des vaccins qui vont d'abord vacciner leur population parce que on en fabrique un nombre limité, puis on va protéger sa propre population, on va protéger sa propre économie d'abord, puis on pensera aux autres après.
Ouais.
Je ne comprends pas que des gens tiennent ce discours en disant « Oh, ben vous savez, il faudrait aller vacciner les gens qui sont au fond du Zimbabwe en même temps que les Québécois qui sont à Montréal. » Non, ça ne sera pas comme ça. Ça ne s'est jamais fait comme ça. La science, le développement, les gens qui payent sont dans les pays démocratiques industrialisés, si on accepte la Chine et la Russie. C'est eux qui vont recevoir les vaccins en premier. C'est notre fric, c'est nos connaissances.
Mais en même temps, c'est nous qui voyageons puis qui propageons ce genre de virus-là.
Ah, c'est la Chine qui l'a fait.
Avec la Chine, avec,
ah,
tu sais, va falloir vacciner là où ça se propage.
Oui, mais tout le monde voyage à notre époque, et puis les voyages se font à pied, etc.
Ouais.
C'est une pandémie, tu sais. Donc, oui, je suis d'accord pour qu'on vaccine tout le monde, je suis d'accord pour qu'on paye pour des gens qui n'ont pas d'argent pour qu'ils soient vaccinés, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais viens pas me dire que nous, on va passer en deuxième, ou en troisième, ou en quatrième, ou en même temps que certains pays qui...
Non, mais non. C'est pas toi qui me disais que Chrystia Freeland, qui vient d'origine ukrainienne,
ouais.
Est peut-être pas en très bon rapport avec la Russie.
Très mauvais.
Si le vaccin de la Russie fonctionne...
Ben, on l'aura beaucoup plus tard. Attention, je suis pas contre le fait que les Russes vaccinent d'abord leur propre population. Je pense que c'est ce qu'il faut qu'ils fassent.
Ouais, ouais.
Puis qu'ils donnent la priorité à leur propre population. Par la suite, ils vont donner le vaccin à d'autres. Le problème, c'est que normalement, le Canada serait parmi les premiers à recevoir un vaccin russe si c'est lui qui est le meilleur. Puis jusqu'à présent, ça semble être le cas.
Mmh.
Mais avec les relations exécrables que Mme Freeland a entretenues avec la Russie, écoute, elle n'est même pas permise d'entrer en Russie, tu sais.
Ouais, ça va pas bien.
Ça va pas bien. Ben, c'est sûr que le vaccin russe, on sera pas parmi les premiers à l'avoir.
Mmh.
C'est celui-là qui marche le mieux.
Bon, on va en avoir une copie, de toute façon, hein. C'est pas grave.
En Côte d'Ivoire. On demandera aux Chinois une copie, c'est ça.
Oui, c'est ça. En Côte d'Ivoire, Loïc, les élections se gâtent.
Oui, il faut en parler un petit peu parce que c'est une situation qui dégénère depuis le 6 août dernier. Il y a eu beaucoup de manifestations en Côte d'Ivoire. Il y a quand même eu une quinzaine de morts. Et tout ça, ça vient du fait que le président actuel, Alassane Ouattara, veut se représenter pour un troisième mandat, ce qui est interdit par la Constitution. Or, la commission électorale dit « Bon, non, c'est pas très grave, le conseil constitutionnel non plus. » Donc, l'opposition s'est réunie ce week-end, a dit « Ça suffit, on veut des élections libres et transparentes. On veut la dissolution du Conseil constitutionnel, qui est l'équivalent de la Cour suprême, et la dissolution de la commission électorale, parce qu'on veut avoir de vraies élections, et nous appelons à la désobéissance civile.
Mmh.
Donc, il faut garder un œil sur ce qui va se passer en Côte d'Ivoire.
Ça, c'est le cocktail pour que tout aille bien, hein?
Oui, c'est encore des gens qui... Ils ont dû être conseillés par Donald Trump.
Ça doit. Au Mali...
Ben, au Mali, c'est quand même une bonne nouvelle, tu vois. Tu te souviendras qu'il y a une junte militaire qui a fait un coup d'État parce que rien ne va plus au Mali. Le chef d'État était épouvantablement corrompu. Le pays s'en allait véritablement à la dérive. Donc, l'armée a pris le pouvoir, une partie de l'armée. Mais évidemment, ils voulaient faire une transition de 3 ans, ce qui était peut-être trop long. Les pays des alentours ont dit « Non, mais qu'est-ce que c'est que ça, un coup d'État militaire ?» Bref, on a négocié et finalement, on s'est mis d'accord pour trouver un nouveau président. Un nouveau président qui n'est pas un militaire, qui est un civil, mais il faut le dire rapidement, en fait, il s'agit de l'ex-ministre de la Défense, qui est un militaire à la retraite. Donc, on sauve la face un peu des deux côtés. Le vice-président va être le chef de la junte qui a pris le pouvoir. Ça semble débloquer de ce côté-là. L'opposition n'est pas très contente parce qu'ils auraient aimé être consultés, mais disons qu'il y a un pas en avant qui se fait au Mali, puis il faut saluer ça.
Bon, et en Biélorussie, là, tu voulais m'en parler hier.
Ben oui, je vais t'en parler hier parce que quand même, il y a encore eu ce week-end 100 000 manifestants qui sont sortis dans les rues, 600 arrestations, les prisons débordent, on a des témoignages là-dessus, les prisonniers sont passés à tabac dans les prisons et souvent ils sont torturés et malgré tout, les gens descendent dans la rue. Alors ce qui est un peu désolant là-dedans et c'est ça surtout dont je voulais te parler, c'est que figure-toi que l'Union européenne qui dit « Ah oui, on va prendre des sanctions contre la Biélorussie », rien. Ils peuvent rien faire. L'Union européenne est complètement paralysée. Pourquoi? Parce que, comme tu sais, il y a une règle de l'unanimité dans l'Union européenne. Il faut que tous les pays de l'Union soient d'accord pour que l'Union européenne fasse quelque chose. Or, il y a un pays qui n'est pas d'accord. C'est Chypre. 1 200 000 habitants.
Ouais.
Chypre dit non. On ne vote pas de sanctions contre la Biélorussie tant qu'on n'aura pas aussi voté des sanctions contre la Turquie. Et tu sais, je t'en avais parlé, il y a ces grands gisements gaziers qui sont au fond de la Méditerranée que la Turquie veut prendre. Et puis, bon, la Chypre dit que c'est à eux, etc. Alors la Chypre dit non. Si vous voulez qu'on vote des sanctions contre la Biélorussie, faut qu'on en vote aussi contre la Turquie, ce qui est quand même une autre paire de manches. Et donc, malheureusement, en ce moment, l'Union européenne est complètement paralysée face à la Biélorussie et ça montre ça encore plus, une fois de plus, que l'architecture de l'Union européenne ne fonctionne pas du tout.
Loïc, avant qu'on se quitte, là, une ou deux minutes, dis-moi donc, là, je vois des affaires passer là, sur Joe Biden, là, sur les élections américaines. Il va falloir qu'on en parle davantage, les élections américaines, parce que là, Joe Biden est obligé de sortir puis dit « je ne suis pas un socialiste ». C'est quand même aberrant qu'il soit obligé de dire « je ne suis pas un socialiste ». Ça veut dire que Donald Trump compte des points, là?
Mais bien sûr que Donald Trump compte des points en ce moment. Ça va bien, son affaire. Écoute, Biden, moi, je l'ai regardé à plusieurs reprises, Joe Biden, et c'est quelqu'un qui, encore une fois, a une belle image de présidentielle, ça. Mais il n'y a pas le charisme de Trump. Il n'y a pas le bagout de Trump. Il passe pas comme Trump. Et en ce moment, les positions restent des positions qui sont figées chez les conservateurs et c'est-à-dire chez les démocrates et chez les républicains. Et il y a un vrai problème. Moi, je te l'ai dit le début de la nouvelle année radiophonique. Je t'ai dit, je pense que Trump va passer et ça se présente exactement comme c'était le cas en 2016 avec Madame Clinton.
Ouais.
Tu sais, et ça pose un sacré problème effectivement. Biden n'est pas capable de faire passer son message. Son message passe mal. Et en ce moment, toute la campagne, on le voit très bien, est complètement mise sans dessus dessous par la mort de cette juge à la Cour suprême. Et Trump fait du millage là-dessus, et sur toutes les tribunes, on en parle partout. Et donc, malheureusement pour les démocrates sont réactifs à ça, ils sont en réaction, c'est pas eux qui ont l'offensive, et ça c'est toujours mauvais dans une élection que d'être à la traîne, que d'être en réaction plutôt que d'avoir l'offensive.
Ouais, parce que tu joues sur la défensive, tu joues sur les talons, là, comme diraient les analystes Félix Séguin, là, quand il décrit les games de hockey.
Tu comptes pas souvent quand tu joues sur la défensive.
Pas tant, hein? Non, c'est ça, tu te la fais poter dans le but entre les patins, plus souvent qu'autrement. Bon, ben écoute, on va commencer à se parler davantage, Loïc, hein, des élections, là, parce que j'ai l'impression...
Je pensais qu'on parle de hockey davantage.
Non, ça, écoute, je pense qu'on a une pause d'un mois et demi, là, tu sais, avec les Canadiens, on va voir ça. Merci, Loïc, on se reparle demain.
À demain.